Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Ce roman nous entraîne dans un pays que nous connaissons peu ou mal, parfois à travers certains auteurs de polar, ce qui nous donne une idée un peu biaisée de l'ambiance du pays qu'on imagine sombre, rude, peuplée d'individus, seuls, comme abandonnés dans une nature toute puissante. Mais voici que ce roman lui apporte l'humanité qui fait vivre ce pays si minéral. On y trouve la complexité des sentiments, des aspirations, des non-dits, des choix et des regrets. Force et faiblesse des personnages comme ce pays magnifiquement dévoilé dans cet ouvrage passionnant à la construction particulièrement originale intitulé Asta, édité chez Grasset. Et j'ai le plaisir de recevoir son auteur John Kalman Stephenson ainsi que son éditeur Jean Materne. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors je ne suis pas sûre de la prononciation des noms propres. Alors voilà, d'abord deux histoires, histoire de l'amour passionné et autodestructeur d'un couple imbriqué dans celle de leur fille, 20 ans plus tard, et d'abord des narrateurs différents suivant les chapitres. Alors, John Kalman, pourquoi des narrateurs différents?
Well, I think mostly to have a...
Je pense que c'était important d'avoir deux points de vue différents en fait, pour se rapprocher des personnages.
À mon avis, il y a trois points de vue.
J'espère qu'on pourrait dire qu'il y en a à peu près 130 points de vue.
Si vous voulez, if you like. Oui, alors il y en a un qui est, l'un d'entre eux c'est Sigvaldi, le père. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, il est en train... peut-être que je dévoile quelque chose. Il est en train de mourir, mais il revit, comme dans un film que nous avons bien connu en France, Les choses de la vie. Il revoit des événements importants. Vous dites, pour approcher de plus près la vérité, je suppose, mais est-ce qu'il n'y a pas une manière aussi de faire participer les lecteurs, de les faire travailler même?
Je pense que mon envie va toujours dans le sens que le lecteur ait besoin de faire quelque chose. En quelque sorte, j'ai envie de transformer le lecteur en une sorte de poète.
En une sorte de
poète.
De poète, oui, d'acteur. Acteur de théâtre. oui, et puis dans la vie, c'est un peu ça. Les infos viennent de plusieurs endroits, de plusieurs sources.
C'est vrai que nous parlons quand même souvent du fait que la littérature ou l'art en général devrait refléter la vie. Et bien sûr, on essaie de faire ça de plein de manières. Mais si la fiction est bonne, c'est aussi dans l'autre sens. La vie va être en miroir, en fait, de la fiction. Donc c'est une influence réciproque, c'est non seulement la vie qui influence l'art, mais aussi l'art qui influence la vie.
Oui, alors pour deux personnages, le père et la fille, nous sommes dans le souvenir, mais le narrateur qui assume le rôle de l'écrivain lui-même, lui, et partage avec nous son activité littéraire, lui, il est vraiment dans le présent, n'est-ce pas?
Well, he is some kind of brick. Il est une sorte de brique, ou plutôt un pont entre tous les différents personnages.
And he seems to know
on dirait qu'il connaît vraiment tous les petits détails de la vie de chaque personnage.
But at the same time,
en même temps, on voit bien qu'il est en train d'avoir des vraies difficultés avec sa propre vie et ses émotions. Et deuxièmement, il doit gérer en fait il organise tout ce qu'il sait. Parce que c'est une chose, en fait, de savoir des choses, et c'est une deuxième, en fait, de l'organiser de telle sorte qu'on puisse organiser et que quelque chose vienne à nous.
D'accord. Oui, d'ailleurs, on parlera du travail de l'écrivain à travers le regard de John Kalman Stephenson. Et pour l'heure, j'aimerais qu'on parle du rôle de la mémoire. Il n'y a pas d'ordre chronologique, il y a un mélange d'époques, un mélange de lieux, de narrateurs. Ils ne sont pas indépendants les uns des autres, mais les temps sont différents. Rien n'est jamais linéaire. Alors, d'abord, pourquoi ces alternances?
I have lived
Eh bien, j'ai vécu à peu près 53-54 ans. Enfin, j'ai oublié quel âge j'ai, en fait, sur cette terre.
Il faut oublier.
Mais une chose que j'ai vraiment appris, en toute, dont je suis certain maintenant, mais il n'y a rien de linéaire, en fait, dans la vie. Et rien n'est chronologique, en fait, dans la vie. Peut-être je vais en fait faire écho en fait à cette émotion que j'ai.
And for me, it's maybe the only real.
C'est la seule manière pour moi en fait de me rapprocher vraiment du cœur de la vie et de l'existence.
Si tant est que ça l'ait été un jour, il n'est désormais plus possible de raconter l'histoire d'une personne d'une manière linéaire, ou comme on dit, du berceau à la tombe. Personne ne vit comme ça. Dès que notre premier souvenir s'ancre dans notre conscience, nous cessons de percevoir le monde et de penser linéairement. Nous vivons tout autant dans les événements passés que dans le présent. Mais voilà, le désir d'une certaine continuité est extrêmement puissant. Cette continuité nous donne l'impression que chaque vie a son sens, qu'elle ne relève pas de simples hasards et de coïncidences, mais que tout est écrit d'avance. Ce qui, en passant, donne également un sens à l'univers. Voilà qui explique pourquoi j'ai voulu raconter la vie d'Asta en commençant par le récit de sa conception. Mais c'était une erreur. C'est l'hiver, dehors, l'océan mugit et se déchaîne. En me levant, je vois Asta dans son appartement, rue Nialgasta. Elle achève d'écrire sa première lettre à... D'ailleurs, je ne devrais pas immédiatement mentionner cette lettre. Ou plutôt, ne devrais citer aucune lettre, et surtout pas venant d'Asta. Ça met tout en péril, sans que je sache précisément ce que j'entends par ce « tout », pas plus que je ne sais ce que ce mot signifie. Personne ne peut, ai-je lu il y a des années, raconter une vie à part Dieu. Or Dieu n'existe pas. Eh bien voilà. Mais si seulement je pouvais décrire convenablement à quel point cette nuit est sombre, on dirait que toutes les lumières ont péri en dehors de celle unique que je perçois au loin, vacillante, au plus profond des ténèbres. C'est évidemment la lanterne des voisins. Cependant, je crains que ce ne soit celle dont la mort se sert pour éclairer sa route jusqu'à moi. Ces ténèbres sont si compactes que même la faucheuse risque de s'y perdre. J'ai commis une erreur, disais-je, en commençant ce récit comme je l'ai fait. Puis j'en ai commis une seconde en vous montrant cette lettre. Mais j'ai du mal à refuser quoi que ce soit à Asta. Elle est malheureuse. Elle est à un cheveu même du désespoir. J'ai peur que ce désespoir ne finisse par devenir aussi profond que celui qu'elle a connu il y a plus de 40 ans quand elle étudiait le théâtre à Vienne. J'ai, en d'autres termes, décidé de reprendre le fil de son histoire à cette époque. Je commets sans doute là une troisième erreur, mais sans erreur, il n'y a pas de vie.
Thank you.
Alors, concernant le rôle du père, le père a fait une chute et il est allongé. On ne sait pas ce qui va se passer, mais beaucoup de choses lui reviennent en mémoire. Et c'est très intéressant de voir ce qui lui revient en mémoire. Ça peut être important, mais ça peut être anodin aussi. On voit, il y a des tableaux, des flashs, mais des choses qui l'ont marqué à jamais.
Je crois que souvent nous ne savons pas ce qui est le plus important pour nous. La plupart d'entre nous ont fait cette expérience que des choses que nous croyons accessoires deviennent vitales.
Oui,
et l'un des rôles de la littérature, c'est certainement en fait de nous rappeler cela. Mais aussi souvent de souligner que justement les choses qui paraissent secondaires sont les choses qui sont réellement importantes, les plus importantes. Parfois, juste un baiser est plus important que toute une guerre.
Oui, nous espérons cela aussi. Alors, je n'ai pas dit à nos auditeurs que John Kalman Stefánsson est islandais. Et parlons un peu du rôle de ce pays, de la place de ce pays qui fascine. À un moment, c'est un pays qu'on ne connaît pas bien. C'est un pays, à un moment donné, vous dites, en 1910, il était archaïque. C'est vous qui le dites. Est-ce qu'il a conservé ses archaïsmes ou y a-t-il eu des changements rapides? Trop rapide même? C'est une question.
L'Islande et l'histoire islandaise, c'est une sorte de mystère. Quand je commence à vouloir expliquer notre histoire et notre société, je suis en difficulté. Nous étions donc pendant des siècles très isolés. Mais en même temps, nous étions en contact permanent avec d'autres nations à travers justement les pêcheurs.
Les Scandinaves, les Norvégiens?
Non, surtout des pêcheurs français et espagnols. Au 19e siècle, en fait, il y a plus de 5000 pêcheurs en fait, qui sont morts noyés sur la côte est en fait, de l'Islande. Quelques-uns ont été heureusement sauvés et ont dû rester des semaines, voire des mois en Islande. Et quelques-uns d'entre eux ont connu des femmes islandaises. C'est pour ça que sur la côte est de l'Islande, il y a des enfants avec des yeux marrons, sombres.
D'accord, pas bleus. Alors, quand on évoque votre pays, on pense à la pureté des lieux, le silence, la solitude, où tout prend de l'importance. Et maintenant, il traverse cet endroit qui ressemble plus à une symphonie qu'à un paysage. Cette terre désolée, ce soleil froid. À gauche, des montagnes vertigineuses, ça et là. D'épaisses plaques de neige descendent jusqu'à la route. À droite, le fjord d'un gris glacial. Et derrière elle, sa valise posée parmi les crottes de moutons, les cordes, les outils et les deux cartons pleins de produits achetés à la coopérative pour rentabiliser le voyage. Elle n'a vu aucune poubelle là où le car s'est arrêté et ce sac qui contient les vestiges du petit déjeuner qu'elle a pris ce matin, elle ne sait où le mettre. Des morceaux de pain complet, des lambeaux de crêpes que la nourrice préparait quand Asta s'est réveillée. L'homme se tait, le fermier. En tout cas, elle suppose que c'est lui, le paysan chez qui elle doit passer l'été. Elle a oublié son nom. Il accueille des adolescents à problème, peut-être pour leur enseigner les bonnes manières et les renvoyer chez eux une fois qu'il les a redressés. Elle ignore comment il s'y prend. Mais remarque ses grandes mains puissantes qui reposent sur le volant comme deux animaux placides. Asta est légèrement intimidée par ce silence, cette indifférence, ce visage buriné, ces deux battoirs. Et en même temps, elle est soulagée de pouvoir se perdre dans ses pensées, de n'avoir besoin de répondre à aucune question. 1000 heures qu'ils ont quitté le village, la route qui serpente vers l'embouchure du fjord semble sans fin. Il dépasse quelques fermes habitées. C'est la saison de l'agnelage, mais il n'y a personne dehors. Les champs sont encore par endroits couverts de neige. Ici, on vient au monde dans le froid. Les fermes s'espacent de plus en plus au fur et à mesure qu'ils progressent vers l'embouchure du fjord. Et finalement, ils dépassent la dernière maison habitée. Les suivantes sont abandonnées. Ces terres ont été cultivées pendant 1000 ans. Aujourd'hui, les bâtiments tombent en ruine. Ici, des gens se sont réveillés chaque matin depuis le 9e siècle. Des enfants et des chiens ont gambandé et joué devant les maisons. Tout cela sera oublié. Les anciens habitants ont renoncé à lutter. Ils ont eu le bon sens de partir, de fuir. Ici, on ne peut attendre qu'une vie de labeur. Il n'y a que l'océan infini, les montagnes qui amplifient les vents et les changent en tempête. Parfois, certains jours, certains soirs, certaines nuits, cet endroit est si beau qu'on dirait que Dieu s'apprête à descendre sur terre pour sceller un pacte avec les hommes et les bêtes. Ils progressent péniblement le long du fjord. Deux fois, ils se sont enlisés dans d'épaisses plaques de neige qui commencent malgré tout à mollir avec le printemps, puis l'immensité de la pleine mer s'offre au regard d'Asta. Tel un coup de poing, d'une lourdeur de plomb, grise, menaçante. Ensuite, la route oblique vers la gauche et devient plus mauvaise encore. Ce qui est surprenant, comment pourrait-elle être pire? Mais ça aussi, c'est une question de point de vue. Avouons qu'il est assez osé et même grandement exagéré de nommer route le terrain sur lequel il progresse à grand-peine. Il serait plus juste de parler de piste ou même de sentier, ce qui relèverait là encore d'une exagération. La Land Rover, tous et ceux d'Andine, y font des bonds sur leur siège, leur tête heurte régulièrement le toit et Asta aurait immanquablement la nausée si le conducteur n'avait pas ouvert sa vitre pour laisser entrer la montagne, l'odeur de la neige et de ce printemps froid dans l'habitacle. Alors, est-ce que ce petit pays et ce climat forgent des mentalités, des personnalités particulières? Certainement, non.
La nature est tellement omniprésente en Islande que, bien sûr, ça touche tout le monde, à la fois de manière positive et négative.
Vous parlez aussi souvent de l'obscurité, des ténèbres même. Est-ce que ça peut donner lieu à une certaine mélancolie?
Oui et non, pour moi plutôt c'est un endroit où le soleil ne se coucherait jamais, ce serait un endroit mélancolique. En revanche, l'obscurité en décembre, oui, là ça peut être très très sombre. On a du soleil pour environ 3 heures, 3 heures et demie. Et pour moi, du coup, l'obscurité devient comme une cave dans laquelle je peux me réfugier et être à l'abri. Et n'oubliez pas, quand vous avez une extrême obscurité, vous avez surtout un très beau ciel avec les étoiles et la lumière du nord.
Oui, d'ailleurs, à un moment donné, ils sont sous les étoiles. Je pense que c'est Sigvaldi et Sigrid, il me semble. Et effectivement, c'est un moment très romantique.
You made me leave my happy home. You took my love and now you gone. Since I fell for you, love brings such misery and pain. Yes, I'll never be the same. Since I fell for you, it's too bad. So sad, I'm in love with you. You love me, and you snub me. But what can I do? I'm still in love with you. I guess I'll never see the light. get the blues about every night since I fell for you. Since I fell for you,
parole d'auteur. Monique Fauché.
Alors parlons des personnages qui sont des personnages, je dirais, justement comme le pays, du moins tel que je l'imagine, des personnages ardents, passionnés. C'est également là les parents, leur fille. Cette fille, comment la voyez-vous? Comment la décrivez-vous? Asta, c'est le titre du roman qui signifie amour.
Quand on enlève la dernière lettre A en fait du mot, du prénom Asta ou Austa, donc Aust, le mot veut dire amour en islandais.
Oui.
Et j'étais très heureux quand j'ai en fait découvert ça. Pendant un court instant, j'ai pensé à mes traducteurs parce qu'ils seraient forcément un peu en difficulté par rapport à ce prénom.
Mais ils l'ont gardé.
Dans ce sens-là, en fait, ça n'a pas d'importance.
Oui. Asta est née d'une passion et il y a deux personnages forts. Je trouve, vous décrivez des femmes belles, des femmes qui sont des femmes passionnées, compliquées, complexes et qui ont un ardent besoin de liberté, d'indépendance. C'est des femmes très modernes, finalement.
Oui, je suppose qu'on peut dire qu'elles sont modernes, mais modernes aussi dans le sens où elles ont des difficultés à gérer en fait leurs émotions. Et elles sont même en fait, ça provoque une forme d'agonie en fait, cette difficulté. Mais ça, en même temps, ce n'est pas très moderne. Ça, c'est, les gens ont toujours eu ce type de situation, connu ce type de situation. On a juste tendance à penser que notre époque est la plus passionnante et la plus passionnée en fait de toutes les époques. Mais ça a toujours été compliqué d'être un être humain.
Et d'être une femme.
Ça a été plus compliqué d'être une femme que d'être simplement un être humain parce que nous vivons dans des sociétés qui sont basées sur des idées masculines. Donc de manière générale, les femmes avaient besoin de lutter deux fois plus que les hommes pour arriver au même niveau qu'eux. C'est une des choses sur lesquelles j'écris tout le temps et qui font toujours partie de mes réflexions.
Alors, effectivement, on voit qu'elles forgent leur malheur, ce désir d'indépendance, cette passion qu'elles ont en elles, et en même temps, elles font le malheur de ceux qui les aiment. Ce sont des femmes fatales.
Ce sont des femmes fortes à plein d'égards, mais on peut être fort ou forte et en même temps rendre les gens malheureux. La mère d'Asta, elle est en grande partie en train de lutter avec ses propres démons. Et elle avait une énorme difficulté en fait à trouver sa place dans la vie. Car c'est à l'époque où vivait la mère d'Asta, on assignait en fait les femmes à une place bien précise dans la société. Et ça ne collait pas avec son caractère. Donc elle a essayé de s'extraire de ce rôle dans lequel en fait la société l'a contraint. Et elle a donc commis quelque chose qui est impardonnable. On ne peut pas pardonner cela et on ne devrait pas le pardonner, mais on devrait essayer de comprendre.
De comprendre, oui. En fait, ce que l'on voit aussi et ce que l'on voit autour de soi, c'est qu'il est difficile parfois de discerner ce qui est bon, même pour soi, et ce qui ne l'est pas, et de faire les bons choix, d'aller vers ce qui est le meilleur. Pour soi et pour les autres.
Je crois que c'est souvent beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce que nous croyons. Mais notre culture est, en tout cas en partie, basée sur ce principe de noir et blanc. Le Dieu d'un côté, le démon de l'autre. Mais peut-être Dieu et le diable sont beaucoup plus ressemblants que nous ne croyons. Et la même chose est valable pour nous tous, on peut être tout à fait parfaitement honnête et en même temps très cruel envers quelqu'un d'autre. Et l'amour, par exemple, peut être très cruel. Parce que l'amour ne se soucie pas de l'endroit où tu es, où la personne se trouve, et ne respecte pas ce qu'on veut. L'amour, ça peut être un peu comme une pièce, en fait, ça peut tomber de chaque côté. D'un côté, en fait, c'est le bonheur, et de l'autre, c'est le contraire.
Et puis, est-ce que c'est pas aussi, vous le dites à un moment donné, aimer, c'est avoir confiance en l'autre. Et je me demande si Sigrid, comme sa fille Asta, ont peur de l'autre, n'ont pas confiance en l'autre, peut-être parce qu'elles ont été égratignées par des événements.
Yeah, well, it's
Asta, je pense, a du mal à aller jusqu'au bout de son amour à cause de ce qu'elle a vécu en tant qu'enfant. Et elle a toujours peur aussi, évidemment, d'être comme sa mère et d'être donc accusée d'être quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Et ça rend les choses évidemment compliquées pour elle. C'est très complexe et compliqué pour elle, mais c'est très positif en fait pour moi en tant qu'écrivain.
Oui, mais finalement, on se rend compte que ces deux femmes sont emplies de regrets. Et ça, c'est peut-être le pire finalement, non?
En partie, c'est un livre sur les regrets.
And I think having regrets either in the end of
avoir des regrets en fait soit à la fin de sa vie ou par rapport à quelqu'un qui vient de mourir
is the worst thing that you can have.
C'est la pire chose qui puisse nous arriver.
If you can't undo something that you are sorry for.
Quand on ne peut pas défaire quelque chose par rapport à une chose par rapport à laquelle on a des regrets.
And perhaps I'm writing the book both to to describe.
Peut-être j'ai écrit ce livre pour décrire ce sentiment de malheur qui est plein de regrets.
But also try to find a way to.
Mais peut-être aussi une façon de les délivrer pour qu'ils soient capables de se pardonner à eux-mêmes.
And there, that's the, in fact.
Et c'est seulement le lecteur qui peut décider si on peut leur pardonner.
So I place a burden on.
Donc je mets une responsabilité sur les épaules du lecteur.
Encore une. Alors, moi j'aimerais qu'on parle aussi de l'intervention de l'auteur. Alors, à plusieurs reprises, on sent que l'auteur intervient, l'auteur narrateur. Par exemple, là c'est une réflexion sur l'argent que fait l'ami de Marcus, Sigurdur, je crois. Il nous colle à la peau comme un crachat de démon. Et évidemment, moi j'ai pensé au crash financier islandais en 2008, avec ce mythe de l'argent facile. Alors, il y a des interventions vraiment, on sent, personnelles. Et c'est très agréable de sortir de la thématique de temps en temps pour prendre un chemin autre.
Ce chapitre était à la fois pour moi très amusant à écrire et difficile. Ces chapitres m'ont donné l'occasion de faire allusion à ces événements dont vous parliez. Donc c'était pour réfléchir sur la société en soi, le monde et la manière de raconter des histoires.
Oui. D'ailleurs, l'auteur-narrateur s'est réfugié dans un lieu isolé et il y a des pages où il y a beaucoup d'humour quand il parle des touristes, quand il parle des locations. On rit. Voilà, alors ça met une note aussi. Je voulais dire aussi que les réflexions sont souvent en aparté sur la difficulté à s'endormir, par exemple. Et le narrateur intervient comme s'il vivait avec les personnages. C'est vraiment vos personnages. Vous êtes le maître de ces personnages, bien sûr.
Yeah, well,
tous ces petites choses, ces détails dont je parle dans le livre,
ce ne sont pas des petites choses pour moi.
Non, en soi, non, mais ce sont des petites choses dans le livre, dans son ensemble.
Dans l'histoire, oui.
Mais pour moi, c'est important aussi de pouvoir être capable de dire, en fait, à quel point c'est une bonne sensation de, voilà, d'avaler un café, de boire un café. C'est toujours mon rêve, en fait, de pouvoir tout mettre, en fait, dans le livre que je suis en train d'écrire.
And also for me,
donc, je veux éviter, en fait, de penser dans ces catégories de ce qui est important, pas important, de ce qui est grand et petit. Je pense que ça ne marche pas comme ça.
Because we, in a way,
parce que, en fait, sur le coup, nous ne pouvons pas savoir ce qui vraiment sont les choses importantes.
Oui, comme dans la mémoire.
Hein, like
comme... oui.
D'auteur Monique Fauché.
Ce qui est intéressant, c'est de voir le travail de l'écrivain. Parce que vous nous parlez des choix, hein, des choix de ce qu'il doit faire, à quel moment, même dans quelles conditions. Par exemple, il va se réfugier dans un lieu isolé, sur les rives de Strond. Quel est pour vous le rôle de la littérature, en fait ?
Je crois et je veux croire que ça a un rôle vraiment essentiel dans la société. Parce que comme tout l'art, en fait, il peut vraiment toucher le lecteur dans plein de manières différentes. Et leur donner à réfléchir en fait sur leur vie, la société, leur environnement. Donc d'une manière calme et discrète, mais malgré tout, un bon livre peut changer en fait la vie. Et à part cela, évidemment, c'est aussi le rôle de la littérature, c'est de raconter des histoires et donner quelque chose d'intense en fait au lecteur. Et je crois que dans notre époque, qui est comme un peu une époque carrefour, ça peut être important, voire vital. Et la littérature, d'une certaine façon, doit toujours prendre position. Et la littérature est là pour nous rappeler que la vie est toujours compliquée. Qu'il n'y a presque jamais des réponses simples en fait à des questions compliquées. Que nous sommes vraiment en danger avec tous ces hommes politiques en fait qui nous donnent des réponses simples en fait à ces questions.
Vous dites la vie compliquée et je vous suivrai sur ce terrain-là. Et en même temps, je trouve parfois il y a des réflexions assez désenchantées que l'on comprend. Et vous dites « Quand notre existence tout entière vibre au point où elle s'approfondit, au point parfois de devenir bonheur, pas beaucoup plus longue que l'espace qui sépare le jour de la nuit, un regard assez sombre finalement. »
Ça dépend de quel côté on se place. Si, bien sûr, si vous pensez que là c'est vraiment tout ce que j'ai dit et que c'est toute l'importance du livre, oui, bien sûr, à ce moment-là, ça serait sombre de dire cela. Mais je crois que c'est important, il faut se rappeler que le bonheur, ce n'est pas juste un instant. Une des raisons pour lesquelles j'écris parce que je dois le faire, parce qu'autrement je serais en train de dessécher littéralement si je n'écrivais pas. Mais j'espère que j'écris aussi pour rappeler en fait au lecteur l'importance de vivre intensément. J'ai peur que parfois nous soyons tellement pris dans les petites choses en fait du quotidien, de notre vie quotidienne, que nous oublions nos rêves. Et même pire, que nous oublions de rêver. À l'arrivée, quand l'obscurité vous guette, vous serez là, plein de regrets.
En tout cas, j'ai parlé de réflexion désenchantée, mais on prend un réel plaisir à suivre Asta, par exemple, le long de ce fjord, à sa rencontre avec Joseph, à cette recherche de l'amour, à cette exaltation des sentiments. Il y a beaucoup de force là-dedans. Et je me dis que quand vous dites, à un moment donné, vous dites « écrire, c'est lutter contre la mort », et là, on le voit vraiment. C'est quand même, même s'il n'y a pas d'amour heureux, c'est quand même la vie.
C'est comme Aosta, c'est un personnage tellement intense, c'est comme la vie en fait. Mais à cause de ce qui lui est arrivé pendant l'enfance et du comportement de sa mère, elle a bien sûr du mal en fait à gérer cette question du bonheur. Mais dans ces fjords de l'Ouest, pendant quelques semaines, elle trouve ce qu'on pourrait appeler le pur bonheur. Et ces semaines, ces quelques semaines, bien sûr, vont rester en elle comme un souvenir très, très lumineux. Mais parfois, c'est une chienne de vie.
Eh bien, la vie aurait naturellement été impossible en Islande, si loin à l'écart du monde, avec ce froid permanent, ces coups de vent incessants et cette population minuscule, si nous n'avions pas été déterminés à nous quereller à tout bout de champ entre voisins. Je suis convaincue qu'autrement, nous n'aurions pas survécu. Ici, nous serions tous morts de froid et d'ennui. Un peuple de taille aussi restreinte que le nôtre et qui vit loin de tout doit savoir se disputer vigoureusement, sinon il est menacé d'extinction. En tout cas, vous êtes le seul Islandais à séjourner à Strand en dehors des gens du cru comme moi. Ici, il n'y a que les touristes qui passent la nuit et le vent a renoncé depuis des lustres à souffler en islandais. Ce serait inutile, plus personne ne le comprend. C'est comme ça dans la plupart des campagnes d'Islande et par endroits, c'est encore pire qu'ici. Enfin, mieux ou pire, je ne sais pas. Je veux dire que la majorité des gens qu'on croise sont des touristes. C'est le progrès, mon brave, et on ne l'arrête pas, même armé d'un fusil dont on n'hésiterait pas à se servir. Enfin, je me fiche de savoir si c'est le bon Dieu ou le diable qui a inventé les touristes parce qu'ils apportent tellement de fric dans la société que l'économie prospère. On est tellement occupé à compter les bénéfices qu'on trouve à peine le temps de travailler. Et que voulez-vous ? Il faut bien leur faire de la place. Il faut bien qu'ils aient un toit. Vous voyez cette jolie maison que vous louez et restez vite pendant des mois. C'est un crève-cœur de voir ça alors qu'on manque tellement d'hébergement. Ici, ça grouille tellement de touristes que j'aurais pu la louer en un clin d'œil. Elle aurait été prise d'assaut jusqu'au grenier.
Alors, en fait, ce passage-là, entre autres, donne très envie d'aller augmenter le nombre des touristes et d'aller en Islande. Alors, pour terminer, parce que je vois que l'heure tourne, je voulais vous dire que j'ai beaucoup ri souvent au choix de vos têtes de chapitre, de vos titres de chapitre. C'est original. En tout cas, c'est un livre très original et dans lequel on n'a jamais fini de trouver ce que l'on cherche. Il y a beaucoup de densité, beaucoup de points de vue, beaucoup d'imbrication. Un grand merci à vous.
Merci beaucoup.